7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, gros plan sur les filles soldats. C'est un phénomène largement sous-estimé. Les filles constituent près de 40% des enfants enrôlés dans les milices armées selon l'UNICEF. Souvent recrutées de force, elles sont utilisées comme esclaves sexuelles, mais elles combattent aussi aux côtés des garçons, comme en Ouganda, au Soudan du Sud. Elles peuvent aussi servir de bombes humaines, comme au Nigeria pour Boko Haram. Alors comment prévenir l'enrôlement de ces enfants, de ces jeunes filles, de ces très jeunes filles? Comment les libérer? Comment les réinsérer? Évidemment, ces jeunes filles, pour elles, il s'applique souvent la double peine dans le retour dans la communauté. Elles sont considérées comme meurtrières et violées. Alors, quelle est aussi l'implication des organisations internationales dans ces pays fragiles? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Yvan Savy.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Plan International France. On sera aussi en ligne avec Kefa Mayangue, qui est spécialiste en protection de l'enfance en situation de l'urgence pour Plan International. Il travaille, lui, sur la région Sahel, Afrique de l'Ouest, lac Tchad. On sera au téléphone avec lui. Il est sur place. On entendra aussi des témoignages recueillis en Centrafrique, en Ouganda. Et bien sûr, les voisins, vous avez la parole. Si cette question se pose dans votre pays, appelez-nous dès maintenant, 33 1 84 22 71 71. Comment prévenir l'enrôlement des filles dans les forces armées et comment les réinsérer? 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Mais tout de suite, direction la République centrafricaine où le conflit perdure depuis 2013. De nombreux massacres ont eu lieu, des destructions d'habitations, des pillages. Un accord de paix a été signé en février dernier entre le gouvernement et 14 groupes armés. Ça avait permis un relatif retour au calme. Mais le pays connaît un regain de violence depuis quelques jours avec une trentaine de civils tués dans deux villages, une religieuse franco-espagnole assassinée. Et au milieu de ce conflit, il y a les enfants qui sont toujours bien présents. Ils sont près de 14 000 à avoir été libérés de ces groupes armés. Alors je dis bien libérés avec des guillemets, on en reparlera. Et près d'un tiers sont des filles parmi ces enfants, comme Christine, enlevée à l'âge de 14 ans. Elle a passé 2 ans dans un groupe armé. C'est un reportage de Charlotte Cossé, correspondante à Bangui.
J'étais à la maison chez mes parents. Des gens sont arrivés, ils m'ont demandé de les suivre et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la brousse. Rien n'a été facile dans la brousse. Il fallait aller très loin pour chercher les feuilles de manioc. Il fallait aussi chercher le bois de chauffe pour faire le feu. Au village, j'avais un mortier, mais dans la brousse, je devais tout faire à la main. C'était très difficile. Toutes les filles là-bas étaient considérées comme les femmes du chef des anti-Balaka. Ils pouvaient coucher avec les filles comme ils voulaient. C'est là-bas que j'ai perdu ma virginité, dans ces conditions. Et ça me fait encore mal aujourd'hui. Cet enfant, je l'ai eu bien sûr, dans les conditions que vous connaissez. Cet enfant représente toute ma souffrance. Et je crois que pour accepter et ne jamais oublier ça, je dois l'aimer. Il représente tout pour moi.
Christine a aujourd'hui retrouvé sa famille à Damara. Elle participe au Club de la Paix organisé par World Vision. Dans ces groupes, on parle, on joue à des jeux de société. Ils sont près de 600 à participer à ces activités, des enfants de 6 à 17 ans. Direction maintenant le centre de formation professionnelle Don Bosco à Bangui. Près de la moitié des jeunes qui étudient ici ont été associés aux groupes armés. Si certaines filles ont été kidnappées par les groupes armés, d'autres les ont rejoints volontairement. C'est le cas de Louise, une jeune fille un peu brusque qui étudie aujourd'hui l'informatique. Elle s'exprime, elle se raconte au micro de Charlotte Cossé.
On a assassiné mon père. Donc j'étais obligée de le venger et c'est comme ça que j'ai rejoint les groupes armés. Moi aussi je me battais. J'ai assassiné des personnes. C'était trop dur pour moi.
Tu t'es sentie mieux après en étant dans le groupe comme ça ?
Même pas.
Yvan Savy, vous êtes le directeur de Plan International France. Les chiffres que j'ai cités, 40% de filles enrôlées parmi les enfants soldats, ce sont des chiffres de l'UNICEF qui datent de 2012. L'UNICEF estime qu'il y aurait 250 000 enfants soldats dans le monde. Est-ce que cette part des filles dans les conflits est stable ?
Non, elle a plutôt tendance à augmenter cette part dans des analyses récentes qui ont été faites. Alors c'est très difficile de recueillir des chiffres, mais des analyses sur des échantillons récents ont montré que la part des filles était plutôt en augmentation ces derniers temps. Et il y a plusieurs raisons à cela. Et l'une d'entre elles que j'ai envie de citer, c'est que l'un des risques principaux d'enrôlement pour un enfant, c'est de ne pas être scolarisé. Et on sait que dans beaucoup de pays en crise et en conflit, l'éducation en particulier pour les filles et pour les adolescentes pas possible, et donc elles sont plus exposées.
S'il existe des kidnappings au sein même des écoles, d'ailleurs, pour les garçons comme pour les filles.
Oui, tout à fait. Les écoles deviennent des cibles, et ça, je pense que c'est un message très important qu'on voudrait faire passer. C'est que dans les crises que connaissent de multiples pays que vous avez cités, il faut vraiment que l'école soit un lieu sûr. Tous les lieux qui accueillent des enfants, qui accueillent des personnes fragiles, les écoles, les hôpitaux, doivent être protégés. Les enfants qui y sont doivent être protégés, les enseignants qui y enseignent doivent être protégés, parce que c'est un gage de stabilité pour ces zones.
Une fois enrôlées, pour ces filles, il est très difficile de quitter les groupes armés.
Oui, c'est vrai pour les filles comme pour les garçons. Une fois qu'on est rentré dans un système extrêmement violent, qui est basé sur la force, c'est très très difficile d'en sortir. Elles peuvent y aller de leur plein gré, ou parce qu'elles n'ont pas d'alternative et qu'elles pensent que dans des contextes où il y a des exactions et des violences très très fortes, elles se sentiront plus protégées dans les groupes insurgés. La réalité est qu'en fait elles vont subir énormément de violences, et qu'une fois qu'elles sont rentrées dans ces systèmes, c'est très difficile d'en sortir. Et a fortiori pour les filles qui sont victimes d'abus et qui sont dans la chaîne de commandement, évidemment, jamais à la tête et à la possibilité d'avoir leur mot à dire.
Ça veut dire que pour libérer ces jeunes filles, vous, des ONG comme Plan International, vous êtes obligés d'attendre qu'il y ait des accords de paix, des tractations, des accords de cessez-le-feu, avec notamment l'intervention des Nations Unies, de l'UNICEF.
Oui, alors effectivement, quand on rentre dans une phase de désescalade dans des conflits, il y a un certain nombre d'accords qui se mettent en place et qui permettent la libération de façon massive d'un certain nombre d'enfants. Et là, peuvent commencer des programmes de réinsertion. Puisqu'on parle des filles, justement, et des statistiques, un certain nombre de filles n'étaient pas comptabilisées comme des enfants soldats jusqu'à présent, parce que pas nécessairement vues comme étant participants aux attaques, mais plutôt travaillant à l'arrière sur tout ce qui concerne l'approvisionnement. Et donc, ce qui rendait difficile le travail de réinsertion pour ces filles. Mais une fois que, si vous voulez, ces accords sont passés et que les enfants sortent de ces groupes, il faut un accompagnement qui est long, qui est adapté à chacun. Et les filles et les garçons n'ont pas vécu. Ils ont vécu tous les deux. Enfin, tous les enfants soldats ont vécu d'énormes violences, ont commis des violences. Mais la réadaptation doit être différente pour les filles et pour les garçons. Et
vous dites bien, y compris les filles commettent des violences.
Bien sûr, certaines d'entre elles commettent des violences. Elles subissent beaucoup de violences. Et pour celles qui sont rentrées aussi dans ces groupes par vengeance, et qui ont été convaincus de rentrer dans ces groupes par vengeance, il y a un mécanisme qui se met en place qui est le même pour toutes, qu'on soit fille ou garçon.
Alors justement, vous parliez de vengeance. Comment faire un travail de réinsertion pour ces jeunes filles? On va entendre le témoignage d'une jeune fille centrafricaine de 18 ans qui souhaite rester anonyme. Et d'ailleurs, Plan International souhaite, l'ONG en tout cas, tient beaucoup à ce que ces enfants témoignent toujours anonymement, hein, même si eux-mêmes ne le demandent pas forcément d'eux-mêmes. Cette jeune fille, donc à 18 ans, elle est une ex-enfant soldat. Elle a été recrutée par les anti-balakas, ces milices d'autodéfense qui ont pris les armes donc en 2013 en République centrafricaine contre les Seleka. Et aujourd'hui, depuis plus d'un an, elle est prise en charge à Bangui par Plan International.
Je vivais à Bossombélé avec mon oncle, le frère de mon père, depuis que j'étais petite. Alors arrivé à Bossombélé, les Seleka ont tué mon oncle et mes frères aussi. Seuls trois d'entre nous avons survécu, et le seul moyen de rester en vie et de pouvoir venger nos parents morts, c'était de rentrer dans la milice opposée, les anti-balakas. J'avais 14 ans. Avec le groupe que j'ai intégré, je suis allée à Bangui. Hommes, femmes, enfants et adultes, nous avons vécu ensemble dans la même maison. J'étais en classe de CM1 quand ça s'est passé. Je suis partie avant que les Séléka atteignent l'école dans laquelle j'étais. Quand les Séléka ont commencé les massacres, on entendait les coups de feu, les bruits, les gens qui fuyaient vers l'école. Alors j'ai fui. C'est en fuyant que j'ai retrouvé un autre groupe armé, les Anti-Balaka, et j'ai dû les rejoindre si je voulais rester en vie. J'ai passé 3 ans avec eux. Le plus difficile, c'était quand il fallait tuer des gens. Aujourd'hui, j'essaie d'oublier ces atrocités. Je souhaite qu'aucun enfant n'ait à vivre cela. C'était très difficile à vivre, les tueries.
Quel a été ton rôle, en fait ?
Dans le groupe armé, pendant les périodes de stabilité, je m'occupais des tâches ménagères. Je lavais les habits, je préparais la nourriture ou je devais vendre ce que nous avions pillé. Mais quand il y avait une attaque ou un combat, tout le monde devait participer et j'ai participé à des massacres. Je regrette vraiment tout ça. Je ne sais pas pourquoi et comment j'ai fait ça. Aujourd'hui, je veux laisser ça derrière moi.
À ce moment-là, est-ce que tu te souviens des rêves que tu avais ? Et qu'est-ce qui te donnait la force, en fait, de tenir ?
Pendant cette période, en tant qu'enfant soldat, je pensais à mes parents, mon oncle, à mes cousins tués. J'avais l'espoir de retrouver une partie de ma famille et retrouver une vie normale. C'était ce à quoi je m'attachais. Quand j'étais dans le groupe armé, j'aspirais à devenir quelqu'un d'autre. Je me disais que si j'arrivais à rester en vie, je pourrais devenir maîtresse d'école. C'est ce rêve qui m'a donné la force de tenir jusqu'à l'arrivée de plan international.
Comment tu as fait pour t'en sortir ?
Bon.
Un jour, un membre du groupe est venu me parler de plan international. Il m'a dit « Cette ONG retire les enfants des groupes armés et leur propose des programmes de réinsertion. » Au début, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que cela pouvait exister. Pour moi, il s'agissait juste d'un moyen de désintégrer notre groupe, de nous désorganiser. Comme ça, les Séléka, en arrivant, pourraient tuer tout le monde. Puis d'autres personnes m'en ont parlé. J'ai compris que ce programme était fiable et réel. C'est ça qui m'a donné envie de m'approcher d'eux et de bénéficier de cette réinsertion. Plan International a mené des recherches et a retrouvé un de mes parents côté maternel. Ils ont mené une médiation pour que cette personne accepte de m'accueillir chez elle. J'ai bénéficié d'une formation de couturière de 4 mois. J'ai reçu une machine à coudre, des ciseaux, des épingles, des fils, des boutons et des pagnes. Tout ça m'a permis de me lancer et de commencer à travailler. Avant, je faisais de nombreux cauchemars, mais maintenant, je n'en fais plus, j'y pense moins. J'essaie de mener une nouvelle vie.
Christian Savy, vous êtes directeur de Plan International France. Cette jeune fille, donc, qui est prise en charge par l'ONG Plan, évoque une grande méfiance vis-à-vis des programmes des ONG de démobilisation, comme s'il y avait un complot, finalement, contre les forces armées de la part des ONG. Vous confirmez ça ?
Effectivement, il faut comprendre que dans tout conflit asymétrique, vous avez un certain nombre d'informations qui peuvent circuler d'un côté et de l'autre, et tout ce qui va venir dans le sens d'une stabilisation et avec une approche pour réinsérer les gens dans une vie normale va être perçu par un groupe insurgé comme une approche hostile ou une approche de manipulation. Et donc, gagner la confiance et créer la confiance avec ces enfants et ces jeunes pour qu'ils décident effectivement de basculer dans tel programme, c'est une première étape assez délicate. Et ensuite, une fois que les enfants et les filles particulièrement rentrent dans ces programmes de réinsertion, tout le défi est de les réinsérer dans une communauté qui va, en particulier pour les filles qui vont être stigmatisées à leur retour, de par le fait qu'elles ont été effectivement enrôlées dans les milices, mais qu'elles ont, dans ce cadre-là, souvent été violées, ont pu avoir des grossesses, avoir des enfants.
Autant de bouches à nourrir aussi. Hein.
Tout à fait, mais aussi, du coup, dans un cadre où, avoir un enfant issu d'un viol ou de pas dans un mariage, si vous voulez, pour réintégrer la communauté, c'est très compliqué pour une fille ou pour une femme. Et donc, ça, ce sont des obstacles supplémentaires, notamment pour reconnecter avec la famille. Mmh. Accepter que les familles ou qu'il y ait des familles d'accueil qui puissent dire, on va accompagner ces jeunes filles dans une réinsertion, si ce sont des jeunes filles mères par exemple, c'est aussi des étapes à négocier, à obtenir, ça prend du temps, on est sur des programmes de 6 mois à 2 ans de réinsertion, et nous on ne fait qu'amorcer les choses et proposer des solutions de formation, mais vraiment le plus grand défi c'est la réinsertion sociale de ces enfants et de ces jeunes filles, l'emploi y contribue mais ça ne suffit pas, il faut aussi travailler avec tout le réseau autour communautaire.
Dans certains pays, les groupes armés s'emploient à ce que ces filles ces enfants soldats en général, d'ailleurs les garçons également, soient obligés de tuer leurs proches pour être sûr qu'ils ne pourront pas revenir aussi dans leur communauté.
Ce sont des stratégies, hein, dans ces conflits asymétriques, ce sont des stratégies d'enrôlement qui passent par les exactions en amont et pour créer un sentiment ensuite, un ressentiment, couper et traumatiser les enfants. Et puis, une fois que des enfants intègrent des groupes insurgés comme ceux-là, il y a tout un conditionnement qui est fait avec des rituels extrêmement violents pour les garçons et pour les filles d'ailleurs, pour les conditionner ensuite à pouvoir commettre des actes qu'ils n'auraient pas souhaité commettre en tant qu'enfants, évidemment.
Comment l'ONG Plan International intervient très concrètement pour retrouver des familles ou trouver des familles d'accueil, pour créer des groupes de parole? Comment vous travaillez?
Alors on travaille beaucoup avec des réseaux d'organisations locales, hein, c'est-à-dire que nous on met en place des programmes et on met en place une méthodologie, mais cette méthodologie elle s'implémente avec des organisations locales qui sont intégrées dans les communautés, qui ont la confiance des communautés. C'est important de recréer cette confiance pour revenir et se réinsérer dans la société. Et l'approche va consister à justement pouvoir identifier des familles, alors les familles quand elles existent encore ou des proches qui vont accepter de rentrer dans une logique d'accueil de ces enfants. Donc il y a tout un travail qu'on peut faire déjà dans les communautés où on est implanté, où on est respecté avec une présence locale de longue date, pour expliquer que voilà, si on veut revenir à une situation normale et à la paix, on doit proposer à ces enfants et ces jeunes des perspectives. Sinon, c'est le risque de réenclencher des logiques de violence.
Donc il y a des programmes qui sont spécifiques pour les parents?
Alors les parents, quand ils sont là, effectivement, sont accompagnés. On a des problématiques, des traumatismes psychologiques très très importants. Donc les enfants, en termes de personnalité, doivent se reconstruire, doivent réapprendre à faire confiance aux adultes. Et donc on a un accompagnement qui est fait pour les parents. Il y a des logiques aussi d'accompagnement à la création d'activités, c'est-à-dire dès le moment où on commence à créer une activité économique, les familles d'accueil et les familles vont pouvoir voir l'intérêt aussi de participer à ce type de programme.
Systématiquement, là on l'entendait dans le témoignage de cette jeune fille qui parlait d'une aide financière pour acheter du matériel de couture. Systématiquement, vous estimez qu'il faut un accompagnement financier pour se former et en même temps pouvoir dégager une activité économique, subvenir à ses besoins?
Oui, alors l'accompagnement financier, on le fournit quand l'activité commence à s'installer, mais pour que cette activité s'installe, il faut aussi des clients, hein. Donc c'est là que l'insertion sociale est importante, c'est-à-dire que si on a formé une jeune fille pour un travail de couturière, mais qu'elle n'est pas acceptée dans la communauté où elle se réinsère, elle ne va pas avoir de clientèle. Donc la dimension financière, elle est importante, mais ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir créé une activité économique qui a un sens dans le bassin où on veut recréer de la stabilité pour créer les conditions d'une activité qui se développe. Le coup de pouce financier, oui, il faut être attentif à ce qu'il y ait une certaine autonomie dans le démarrage de cette activité.
Ces jeunes filles, souvent, notamment c'est le cas en République centrafricaine, ont eu des scolarités en dents de scie, voire inexistantes. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, est-ce que vous les réinsérez avec un petit peu d'enseignement, d'éducation, de modules scolaires?
Alors, j'ai envie de dire, c'est pas le plus important, hein. Vraiment, c'est la réinsertion sociale et la dimension psychologique de pouvoir retourner dans une vie socialisée, qui est l'aspect fondamental. Mais je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de filles qui ne sont pas scolarisées aussi avant même que la crise ne survienne. Et là, oui, on fait de l'accompagnement sur l'alphabétisation, numération. Si on veut créer une activité économique, il est important de savoir compter. Mais le plus gros défi, c'est la réinsertion sociale et l'accompagnement psychologique pour ces jeunes filles.
Alors un gros travail de plaidoyer est mené aussi afin de faciliter le retour des enfants dans les communautés via d'autres organisations internationales et notamment bien sûr les Nations Unies. En République centrafricaine, 11 000 enfants sur les 14 000 sortis des groupes l'ont été, je le disais tout à l'heure, via des négociations. C'est ce que explique Charles Founiaman, administrateur de la protection de l'enfance à la MINUSCA, donc les forces des Nations Unies en République centrafricaine. Il s'exprime au micro de Charlotte Cossé.
Beaucoup de filles qui sont associées sont utilisées sexuellement. Elles sont utilisées comme des épouses. Un combattant, un chef de groupe armé n'arrive pas à comprendre pourquoi on va dire celle qu'elle considère comme son épouse est plutôt un enfant associé? Donc c'est une première difficulté. Et il faut comprendre, d'ailleurs, il y a un défi culturel ici. Dans beaucoup de localités, dans beaucoup de communautés, le mariage précoce est prépondant. Et même du côté des filles qui refusent la séparation parce qu'ils trouvent qu'on est en train de les séparer de leur mari, de leur foyer, ils ne trouvent pas qu'elles sont victimes et ils trouvent qu'elles sont en mariage. Donc c'est une grande difficulté. L'approche que nous utilisons beaucoup plus, c'est une approche de partenariat. Ils ont une responsabilité de protéger les populations civiles, y inclut les enfants. Donc c'est à les faire comprendre que nous sommes là pour les assister, n'est-ce pas, à faire ce qu'ils doivent faire, à honorer leurs obligations. L'accord de paix change. Je pense que vous avez constaté que dans l'accord de paix, il y a des provisions sur les enfants. Et ça nous donne un levier pour les faire comprendre. Vous avez signé un accord. Vous-même, vous avez pris un engagement de ne plus commettre ces violations contre les enfants. Donc, il faut concrétiser cela sur le terrain, en posant des actes, en identifiant les enfants, en prenant des mesures disciplinaires contre ceux de vos membres, n'est-ce pas, qui vont continuer à violer les droits des enfants de quelque manière que ce soit.
Christian Savy, on le comprend bien à travers ce représentant de la MINUSCA à Bangui, que les accords politiques sont intrinsèquement liés aussi à la réinsertion de ces jeunes filles.
Oui, les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc il y a la dimension de démilitarisation, les armes, etc., qui font partie des négociations assez intenses. Et il faut, si on veut aller vers une vraie stabilité, accepter que des enfants qui ont été enrôlés dans une stratégie aussi de déstabilisation des familles, des communautés, puissent retourner vers une vie normale et que ce soit pas simplement un engagement de principe, mais que ce soit une réalité, effectivement.
Ouais. Comment vous travaillez avec les autres organisations internationales, justement, sur ces questions-là d'enfants soldats et notamment de filles soldats? Comment vous vous organisez? Quels sont les différents plaidoyers? Est-ce que vous êtes tous sur la même ligne?
Alors écoutez, en ce moment, on est beaucoup mobilisé justement sur une coalition d'acteurs pour faire en sorte que les écoles et les centres d'apprentissage soient des lieux sûrs en cas de conflit. Donc il y a aujourd'hui, c'est une initiative qui a été portée par le gouvernement norvégien. On est plusieurs ONG internationales à porter cette initiative. Save the Children, World Vision, on travaille également avec l'UNICEF là-dessus. Au niveau de la coalition éducation en France, où on est 19 ONG appartenant à la coalition éducation, on porte ce plaidoyer aussi pour faire en sorte que les écoles soient protégées et soient des lieux sûrs pour les enfants et les enseignants, parce que c'est le meilleur rempart contre l'enrôlement. Une fois qu'on est enrôlé dans un groupe insurgé, on va vivre des parcours, comme vous les avez entendus, qui sont désastreux, et c'est extrêmement compliqué de reconstruire avec ces enfants. Garantir l'éducation dans les zones de conflit, c'est le meilleur rempart. Et ça, on le fait ensemble, on est une coalition d'acteurs à le pousser. Sur la dimension réinsertion, nous avons des logiques d'intervention dans les pays qui sont liées aussi à notre localisation. Donc on intervient à Bangui, effectivement. Il y a d'autres organisations qui interviennent dans d'autres zones au niveau de la RCA. Et donc on peut avoir une répartition dans la réinsertion qui est fonction justement de cette présence géographique que chacune des organisations va pouvoir couvrir.
Alors en même temps, la situation, elle est très différente. La situation scolaire, puisque vous le disiez, c'est le meilleur rempart contre l'enrôlement des filles, c'est de s'assurer que tous les enfants accès à l'école, mais dans un pays où le système scolaire est complètement défaillant depuis très longtemps, comme la République centrafricaine ou le Burkina Faso, où il y a un cadre scolaire bien existant, même s'il est très très sérieusement mis à mal avec le terrorisme, la montée des djihadismes dans cette région. Néanmoins, on ne peut pas vraiment comparer. Alors finalement, comment vous vous adaptez d'un pays à l'autre pour tenter de faire passer un message de sécurisation des écoles?
Mais on travaille au niveau des gouvernements pour qu'ils s'engagent dans ce protocole d'accord. Je vous dis, il y a 90 États qui ont signé. Tous les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre ne l'ont pas encore fait. Et donc ça, c'est un engagement pour dire, voilà, les écoles doivent être des lieux protégés, les enseignants doivent pouvoir exercer leur métier et les enfants doivent pouvoir accéder aux écoles. On a aussi des stratégies d'adaptation quand les conflits sont déjà là et qu'il y a des régions qui sont très instables et que les écoles sont prises pour cible. On a des unités mobiles d'éducation, par exemple. On a mis en place cela là au Nigeria, et ça fonctionne assez bien parce que ça rassure les parents sur le fait que l'unité étant mobile et les zones où les enseignements vont pouvoir se faire ne sont pas nécessairement connues à l'avance, ben, du coup ça rassure les parents sur le fait que leurs enfants peuvent se rendre dans ces unités mobiles d'éducation, mais la qualité de l'enseignement n'est pas la même. Il faut vraiment avoir en tête que c'est un pis-aller, c'est une stratégie d'adaptation, mais il est important que quand un enfant est dans une école, il s'y sente en sécurité évidemment et qu'il puisse y recevoir un enseignement de qualité.
Une forme d'école nomade finalement.
Oui, mais c'est pas ça que nous devons rechercher. C'est une école sanctuarisée d'abord et avant tout, et ça, il faut vraiment que les États s'engagent à assurer que le service éducatif soit rendu.
Nous parlons des filles soldats aujourd'hui, et les voisins et les voisines, si vous avez connaissance de ce problème dans votre pays, bien évidemment, si vous vous sentez concerné, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On peut vous donner la parole dans quelques instants. On sera aussi en ligne avec Plan dans la zone Sahel, avec Kefa Mayangé, qui est en ligne avec nous et qui est spécialiste de la protection de l'enfance en situation d'urgence pour l'ONG Plan International.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Et on accueille Kefa Mayangé. Bonjour Kefa Mayangé.
Bonjour madame.
Vous êtes donc basée dans la région du lac Tchad. Vous couvrez pour l'ONG Plan International la région du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la région du lac Tchad. Évidemment, tous les pays qui sont soumis à rude épreuve en ce moment pour ce qui est de la scolarisation des enfants, où les écoles sont prises pour cible, comme nous le disait Yvan Savy. Pour revenir à l'enrôlement des filles dans des forces armées, quelle est la spécificité dans cette région, puisqu'on était tout à l'heure en République centrafricaine où la situation est différente, mais quelle est la spécificité de l'enrôlement des filles dans cette région, Kefa Mayangé?
Merci madame pour cette question. Normalement, comme tu as dit, oui, plat œuvre dans la plupart de ces régions qui sont aujourd'hui affectées par le conflit. Le spécificité par rapport aux filles dans les conflits, par rapport aux enfants recrutés ou utilisés. Les filles peuvent être utilisées pour des fins sexuelles. Les filles peuvent être utilisées pour des travaux domestiques, des travaux lourds. Et les filles aussi peuvent être utilisées comme des informatrices à donner des informations aux différentes parties prenantes dans les conflits. Mmh. Elles sont bien sûr, surtout ça c'est un cas spécifique pour la région du Sahel, elles sont bien sûr utilisées pendant des attentats. Mmh. Je pense que vous en savez plus que moi, il y a eu assez d'attentats dans différents pays. Et ce sont des filles qui étaient mises au front pendant ces événements.
Du fait de leur condition de femme, elles attirent moins l'attention, évidemment, des autorités par rapport aux hommes. Comment vous travaillez sur le terrain dans des pays qui sont totalement déstabilisés par la menace terroriste? Comment vous travaillez sur cette question de l'enrôlement des filles?
Au plan international qui intervient dans la plupart des pays dont nous avons des réponses au Nigeria, au Niger, au Cameroun, au Burkina Faso bien sûr, on développe des interventions qui sont appropriées aux filles, enfants et adolescentes qui sont susceptibles ou qui ont été victimes d'utilisation par des parties prenantes au conflit. Et entre autres interventions, c'est pour assurer un appui psychosocial aux enfants, filles, adolescentes et aussi leurs familles. C'est aussi assurer des activités de réinsertion sociale et économique. Réinsertion sociale et économique, je fais par exemple le retour à la scolarisation des jeunes filles qui étaient associés ou utilisés par les parties prenantes au conflit, mmh. mais aussi des activités de réinsertion professionnelle comme les apprentissages au métier. et d'autres interventions visant bien sûr la communauté entière, dont les sensibilisations sont on est de nos interventions afin que ceux-ci, afin que les communautés qui sont affectées retrouvent leur bien-être.
Et comment faites-vous pour les filles qui sont hors d'atteinte? Je veux dire par hors d'atteinte qui sont complètement endoctrinées et qui ne souhaitent pas quitter ces groupes.
Oui, tout départ de l'idéologie de parties prenantes au conflit. Cette idéologie, c'est juste vouloir changer la manière de réfléchir, la manière de décider de ces jeunes filles et de leurs familles. Ce que nous faisons, c'est aussi travailler avec les communautés affectées, travailler avec les parents, travailler avec les adolescentes pour discuter de leur futur, pour leur montrer que l'âge dont elles ont n'est pas approprié à se faire enrôler ou à travailler avec des parties prenantes au conflit. Et cela passe par, bien sûr, un grand programme qui vise aussi à intégrer les autres acteurs humanitaires, les agences des Nations Unies, les gouvernements des pays, pour que les communautés soient sensibilisées sur le non-enrôlement et l'utilisation des jeunes filles.
Restez en ligne avec nous, Kefa Mayange. Yvan Savi, on sait que les garçons qui sont enrôlés dans les forces armées, notamment dans cette zone du Sahel, le sont sur des propositions financières. Est-ce que c'est la même chose pour les filles ou pas du tout ?
Non, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle dans les crises des stratégies d'adaptation négative. C'est-à-dire que quand on n'a absolument aucune perspective en tant que jeune, qu'on est vulnérable, on répond à et on essaye de s'en sortir. Donc les garçons peuvent rejoindre ces groupes insurgés parce qu'ils vont pouvoir accéder à une certaine ressource économique, hein, issue des pillages, issue des exactions, etc. Les filles vont rejoindre ces groupes parce qu'elles vont avoir le sentiment qu'elles vont y être protégées ou parce que justement la zone est tellement instable qu'elles se sentent qu'elles n'ont plus aucune opportunité, elles se sentent extrêmement vulnérables et donc c'est des stratégies d'adaptation qu'elles vont avoir. C'est pour ça que c'est si important de pouvoir maintenir des centres d'apprentissage, maintenir une scolarité et éviter que les enfants et les jeunes soient exposés à ces solutions qui sont des pis-allers.
Ouais. Kefa Mayange, dans un contexte d'urgence sécuritaire tel que le vit la région du Sahel aujourd'hui, la question des filles enrôlées, qu'elles soient volontaires ou kidnappées, on le sait que c'est quand même dans beaucoup de cas aussi des kidnappings, on l'a vu au Nigeria. Quel peut être le plaidoyer de plan international dans la mesure où aujourd'hui les gouvernements disent clairement, et on peut les comprendre, l'enrôlement des filles, ce n'est pas du tout notre priorité?
La stratégie de plan, c'est de travailler du côté des autres partenaires, dont les agences des Nations Unies, les partenaires humanitaires et aussi les gouvernements des différents pays concernés pour développer des stratégies conjointes afin que les filles ne soient pas sujet d'enrôlement ou d'utilisation. Ceci aussi, la même stratégie passe par aussi la sensibilisation de différents leaders communautaires, de familles aussi concernées, pour que la valeur de la jeune fille ne soit pas exposée aux enrôlements ou à l'utilisation dans les parties au conflit. Bien sûr, ceci n'est pas toujours facile parce qu'il faut d'abord travailler sur deux questions idéologiques, montrer à toutes les parties prenantes que la place de la jeune fille n'est pas dans l'armée ou dans les groupes armés ou dans les autres insurgés.
Oui, vous parliez de leaders communautaires. Évidemment, vous travaillez avec des chefs religieux, j'imagine.
Bien sûr, nos interventions tiennent compte de toutes les couches communautaires à travers le chef coutumier, le chef religieux, les jeunes ou le club des jeunes, le groupe des mamans, c'est-à-dire toutes les couches qui composent une communauté parce qu'elles doivent décider sur leur bien-être, elles doivent décider sur la protection contre le recrutement, contre l'enrôlement, contre les enlèvements de jeunes filles.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, Kefa Mayange? Je sais que ce sont des sujets qui sont très compliqués pour les travailleurs humanitaires aujourd'hui sur le terrain, que la situation est explosive, mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la nature du dialogue, par exemple, avec des chefs religieux?
Oui, bien sûr. La nature du dialogue, c'est d'abord partir des analyses qui montrent comment est-ce que les jeunes filles ou les enfants, par rapport à leur âge, ils ne peuvent pas faire partie des groupes armés, des groupes militaires. Parce que les conséquences, c'est d'abord sur leur futur, sur l'éducation, sur la scolarité, sur leur contribution au développement de chaque village, au développement de chaque ville, et bien sûr des répercussions très importantes sur le futur d'une nation. Mmh. Il faut d'abord que ces communautés réalisent que les enfants, les jeunes filles, peuvent après un temps devenir les responsables d'une nation. Et lorsque elles ont été recrutées dans les bas âges, lorsqu'elles ont été avisées, c'est difficile que ces enfants, c'est difficile que ces jeunes filles puissent contribuer au développement de leur communauté. Et donc cela doit être ancré dans leur quotidien qu'il faut protéger les jeunes filles. Cela aussi doit aussi interpeller bien sûr les différents décideurs au niveau du gouvernement, au niveau des communautés, pour qu'il y ait des mesures assez efficaces qui puissent protéger ces jeunes filles contre le recrutement, contre l'enrôlement, contre les autres formes d'enlèvement. Mmh.
Valoriser les enfants, effectivement, c'est la meilleure prévention de l'enrôlement. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Kefa Mayange. On parle des filles soldats aujourd'hui avec vous, Yvan Savy, directeur de plan international France. Et Kefa Mayange était en ligne avec nous. Il œuvre dans la région du Sahel, également pour plan international. On revient dans quelques instants. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Prévenir l'enrôlement des filles dans les forces armées.
Dilimani de, Dilimani de, Dilimani.
Délie Bassekoukouyaté chez 7 milliards de voisins. Sur RFI, nous parlons des filles soldats. Aujourd'hui, ça concerne principalement, mais pas que, le continent africain. Les chiffres de l'UNICEF font état de 40% de filles enrôlées parmi les enfants soldats. Des chiffres qui n'ont pas tendance à baisser, malheureusement. Alors, on arrive au terme de cette émission. Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage en Ouganda, issu des archives de 7 milliards de voisins. Ça a été recueilli il y a moins d'un an. L'histoire de Janet, 27 ans, a été très longue à démêler. Le regard baissé, les cheveux courts. C'est une silhouette qui est presque voûtée dans la pénombre de sa case qu'elle partage avec deux de ses enfants. Le visage marqué, Janet fait 10 ans de plus que son âge. Elle vit dans un village au bout d'une piste de latérite, au milieu des champs de manioc, de haricots, de tournesol, un peu au nord de Lira, dans une région proche du Soudan du Sud, là précisément où Janet est enfin parvenue à s'échapper. Écoutez-la.
J'ai passé 4 ans en captivité. J'entrais dans ma 5e année et j'étais lourdement enceinte de mon premier enfant, Cinderella. Je ne me sentais pas bien, j'étais fatiguée et porter des armes chargées tout le temps m'est devenu très difficile. Ma cicatrice sur le ventre me faisait mal, j'avais besoin d'un traitement. J'avais peur de mourir avec l'enfant. Tout ce que je voulais, c'était atteindre les casernes les plus proches des soldats de l'armée ougandaise que nous combattions. Je voulais me rendre. J'avais peur aussi, parce qu'on nous avait toujours dit que si nous tentions de nous échapper, nous serions tués. J'ai déjà vu des gens être abattus alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Mais mes parents me manquaient beaucoup. Je voulais rentrer et les revoir. J'étais fatiguée de me battre. Alors nous avons été 4. 4 filles à préparer un plan pour nous échapper. Sur les 4, 2 sont mortes en chemin. L'une est tombée dans une canalisation. L'autre est morte de faim. Elle ne voulait pas manger les plantes avec lesquelles nous survivions. Nous n'étions que 2 quand nous sommes arrivés dans une caserne de l'armée. On nous a emmenés dans un centre de réhabilitation géré par une ONG américaine, à Goulou, dans le nord du pays. J'y suis restée 1 mois. Puis on m'a ramenée à Lira, près de mon village. On a tenté de joindre mes parents. J'ai alors appris que mes parents avaient été tués par la LRA, chez eux, pendant que j'étais en captivité. Personne ne m'attendait quand je suis rentrée.
En fait, ici, c'était la maison de votre famille ?
Oui, c'est celle de mes parents.
Comment vous avez été perçue ? Comment ça s'est passé, votre tour ?
Quand je parle à mes voisins ici dans le village, ils m'insultent. Dès que j'essaie de planter quelque chose dans ma ferme, j'entends qu'on crie « Regardez cette rebelle qui vient de rentrer, elle se croit plus forte que nous !» Ils ne veulent pas que je récolte quoi que ce soit. Ils préféraient que je stagne, que je reste sans rien. Je suis un problème pour la communauté. Je fais pousser du soja, du mil, du maïs et des haricots. Et souvent, les villageois alentour envoient leurs vaches manger ce que j'ai planté dans mes champs. Venez, je vais vous montrer une plantation sur laquelle des vaches sont venues brouter mon manioc. J'ai essayé de parler au voisin que je savais responsable de cela, mais il a nié et il m'a insulté. Vous allez voir.
Là, oui, de l'extérieur, on voit vos plantations.
Ce maïs que vous voyez a aussi été saccagé par les animaux de mes voisins. Et ici, c'est donc une de mes plantations de manioc. Les vaches ont tout détruit. Vous voyez les espaces vides ? Cela m'avait pris 2 jours de planter tout ça.
Donc c'est 2 jours de travail gâché.
Oui, et tout ce que je plante, c'est pour nourrir ma famille.
Quand est-ce que ça s'est passé ?
Il y a 1 semaine, j'étais sortie pour me rendre à un club de paix, une réunion organisée dans notre communauté pour la réconciliation, justement. Quand je suis rentrée, les vaches étaient déjà reparties. Et voilà le résultat. Les villageois ici ne supportent pas l'idée qu'il puisse m'arriver quoi que ce soit de bon. Et puis il y a aussi ma fille, Cinderella, dont j'ai accouché quand je suis revenue au village. Quand les autres enfants jouent avec ma fille, ils la frappent. J'ai essayé de discuter avec leurs parents, car c'est devenu un problème. Mais plutôt que de me répondre, ils me disent « Toi, la rebelle, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire ?» Le nom rebelle est toujours sur moi. Il ne disparaît pas, il ne s'efface pas. Et ma fille, conçue en captivité, est aussi surnommée rebelle dans le village, comme moi.
Et qu'est-ce que vous espérez pour votre fille ?
Je rêve qu'elle devienne infirmière. C'est ça mon rêve de mère. Comme ça, les gens qui la voient aujourd'hui comme une rebelle la verront demain comme une étoile, qui les guérira quand ils seront malades. Une étoile pour la communauté.
Yvan Savy, vous êtes le directeur de plan international. On a évoqué les cas de la République centrafricaine, du Sahel, évidemment, vers qui les regards sont actuellement tournés. L'Ouganda pense à peine ces blessures de dizaines d'années de sévices subis par les enfants soldats commis par notamment l'armée de libération du Seigneur. Aujourd'hui, on voit bien que malgré la volonté politique d'aider les enfants à se reconstruire, à retourner dans leur communauté, ça ne fonctionne pas finalement.
C'est très très compliqué de reconstruire une histoire et de reconstruire de la cohésion après que des zones aient été impactées par les conflits. Ça se transmet de génération en génération, les animosités restent et demeurent, les stigmatisations sont très très longues à effacer. Il y a un travail de réconciliation et de mémoire qui est souvent compliqué à opérer et tout ça c'est des dégâts considérables. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, sur cette zone Sahel, investir massivement dans le maintien de l'éducation, la création d'opportunités économiques pour les enfants et pour les jeunes, et pour les jeunes femmes comme pour les jeunes hommes. La France appuie et au niveau du G7 aussi pousse pour qu'il y ait un investissement très très fort dans cette région pour le maintien de l'éducation. Nous, les organisations internationales au sein de la coalition éducation, nous demandons à renforcer la dimension éducation dans tout ce qui est crise humanitaire. Aujourd'hui, ça ne représente que 2% des financements, l'éducation. Évidemment, il y a des besoins dans ces crises qui sont énormes en termes de santé, d'accès aux besoins de base, mais avoir une partie des financements qui assurent et qui maintiennent l'éducation, c'est une prévention qui est absolument nécessaire parce que la reconstruction après d'un tissu social cohérent et de personnes qui ont pu vivre dans l'enrôlement dans les forces armées des dégâts considérables, c'est très très long de restaurer quelque chose.
Vous parliez du G7 qui aura lieu à la fin du mois d'août prochain. Qu'est-ce que vous attendez des grandes ce monde sur ces questions-là ?
Qui est un consensus, et je crois qu'il est dégagé au niveau des pays du G7, mais que aussi en travaillant avec les États de la zone Sahel, l'Alliance Sahel, qui est un consensus pour dire qu'il faut investir dans l'éducation et dans la création d'opportunités économiques pour les jeunes maintenant et de manière significative, parce que sinon il sera ensuite trop tard pour reconstruire quelque chose.
Merci à vous Yvan Savy, directeur de plan international France. Le reportage d'archives que vous avez entendu sur l'Ouganda, c'est le reportage de Charlie Dupiot sur la réinsertion des enfants soldats en Ouganda, bien sûr à réécouter en podcast sur la page 7 milliards de voisins. On va vous remettre le lien et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. À demain.